Je suis en compagnie de Toby Nathan pour parler de L'étranger ou le pari de l'autre qui vient de paraître aux éditions Autrement. Toby Nathan, j'aimerais commencer par votre avant-propos sur la manière dont vous qualifiez votre texte, vous qualifiez votre livre de philosophiction.
Ouais, c'est-à-dire, c'est en vérité un livre de philosophie en fait. Et ça traite d'une question qui est une question philosophique qui me semble être une question fondamentale, surtout à notre époque, qui est la notion d'étranger. Et en vérité, dans notre monde et dans la politique de notre monde, aujourd'hui, il n'y a plus d'étrangers. Je veux dire, il n'existe pas d'étrangers, il n'existe que des gens qui habitent ailleurs, qui habitent dans d'autres mondes, qui habitent dans d'autres langues, mais qui sont des semblables, ce ne sont pas des étrangers. Étranger signifie quelqu'un qui est dans une altérité radicale, c'est ça un étranger, y compris d'un point de vue étymologique. Donc j'ai voulu traiter de cette question philosophique. Et puis je me suis rendu compte, quand je suis allé explorer cette notion d'étranger dans d'autres mondes, parce que dans le nôtre, il a totalement disparu, cette notion a totalement disparu. Quand je suis allé la regarder dans d'autres mondes, l'examiner dans d'autres mondes, je me suis rendu compte que ailleurs, quand il faut connaître l'étranger, on lui prête son corps. Et donc, c'est essentiellement dans les rituels de possession, c'est là où on a une relation avec l'étranger. On lui prête son corps. Alors je me suis dit, mais on ne peut pas faire ça dans un livre de philosophie si, à une seule condition, si on passe par la fiction. Et la fiction est une façon d'imposer une expérience physique et mentale au lecteur, et ensuite le retour intellectuel sur cette expérience, ça correspond à peu près aux séquences des rituels de possession. C'est un peu ça que j'ai voulu faire dans un livre. Alors, évidemment, c'est extrêmement ambitieux. Je parle de l'intention. Est-ce que je l'ai réalisé, c'est une autre question, mais en tout cas c'était ça l'intention. C'est pour ça qu'il y a cet avertissement au début, et ça commence exactement comme un livre de science-fiction en fait, hein. Et parce que cette expérience de la science-fiction qui vous plonge dans un univers radicalement distinct, cette expérience-là qui est un peu aussi l'expérience de tous les romans, mais la science-fiction est plus radicale du point de vue de l'étrangeté. Il y a d'abord l'expérience, et ensuite il y a le retour sur l'expérience, et c'est pour ça qu'il est construit comme une alternance de moments de fiction pure et de moments de réflexion sur l'altérité, la notion d'altérité.
Est-ce que c'est la première fois que... Ce n'est pas la première fois que vous utilisez la fiction, mais non. Est-ce que c'est la première fois que vous utilisez la science-fiction et la littérature fantastique ?
Alors, d'abord, j'ai toujours été passionné par la science-fiction. Je ne suis pas le seul dans ma discipline. Il y avait un de mes maîtres qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui a écrit... qui était un érudit de l'anthropologie, qui est un africaniste, qui connaissait... qui a beaucoup travaillé sur les rituels de mort et de deuil en Afrique, qui a écrit des sommes considérables sur ces notions, était aussi un passionné de science-fiction. Et comme ça, de manière adjacente, vous le savez certainement, la créatrice de la science-fiction moderne, en fait, hein, la première, c'est une femme, hein, le premier écrivain de science-fiction, elle s'appelle Ursula Le Guin. Ursula Le Guin est la fille de Theodore Kreber, quand même, qui est le grand pape de l'anthropologie américaine, celui qui a écrit le manuel des Indiens d'Amérique, en fait. Hein. Et bien, c'est sa fille qui crée la science-fiction, parce que l'un décrit des mondes distincts et l'autre les crée. Et donc, c'est un peu la même chose. L'anthropologie est assez proche de la science-fiction, d'un certain point de vue. Et c'est pour ça que la science-fiction s'est imposée à moi comme la façon de faire, en fait, obligatoire.
Mais pour parler de l'étranger, pour penser l'étranger, vous ne pouviez pas utiliser les méthodes de l'anthropologie.
Ben non, c'est pas possible, parce que quand l'anthropologie... Si vous allez voir... Ça m'est arrivé, hein, souvent, comme beaucoup d'anthropologues, hein, d'assister, par exemple, à des rituels de possession. Quand vous assistez à un rituel de possession, il y a deux possibilités. Ou bien... vous y assistez, vous les regardez, vous posez la question aux gens, vous décrivez ça de l'extérieur. Ou bien vous tombez en transe. Évidemment, c'est pas du tout la même perception, quoi. Hein. Si vous y assistez de l'extérieur, tout ce que vous raconterez, ça n'a rien à voir avec ce qu'éprouvent les gens. C'est une expérience, c'est un vécu. C'est le vécu de l'aliénation, c'est-à-dire l'aliénation au sens strict, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prêtez votre corps, votre être à un étranger dont vous ne savez rien, c'est-à-dire vous ne savez pas s'il a une tête, des jambes, des bras, etc. Vous ne savez rien, sinon ce qu'on dit de lui, quoi. Et vous lui prêtez votre corps et votre être et vous le laissez habiter ce corps, vous le laissez agiter ce corps et ensuite vous vous récupérez. Et puis, parfois, vous réfléchissez à ce qui s'est passé. Et cette expérience-là, moi, m'a toujours sidéré parce que, vous savez, il y a un personnage absolument extraordinaire dans l'anthropologie française qui s'appelle Michel Léris. Michel Léris a tout fait pour rentrer en transe. Il a assisté au rituel du Tsar, qu'il a super bien décrit, c'est les meilleurs, parmi les meilleures descriptions des rituels de Tsar, qui sont des rituels de possession en Éthiopie. Et donc il y a assisté, il voulait absolument être lui-même pris par la transe, il n'y est pas arrivé, quoi. C'est-à-dire il a tout fait pour y être, mais ça ne s'est pas produit, il faut que ça se produise. Et c'est un événement, c'est pas quelque chose qu'on peut programmer, on ne peut pas le faire de manière volontaire. Et cette expérience-là, qui est d'être pris par un récit qui vient d'ailleurs, cette chose-là, j'ai voulu en retranscrire au moins une part. C'est pour ça que j'embarque le lecteur dans ce récit de science-fiction au départ.
Alors, un récit de science-fiction qui tire sur le fantastique et qui se passe à Paris.
Qui se passe à Paris,
oui. Qui est vraiment circonscrit.
Ouais.
Dans la ville,
ouais.
Avec cette question, pourquoi ça ne se passe pas ailleurs, d'ailleurs.
Ouais.
Et autour de ce personnage qui s'appelle Samy. Que lui arrive-t-il ?
Alors, l'histoire, je l'ai imaginée comme ça, et c'est imposé à moi, comme ça, c'est même pas une question d'imaginer, c'est imposé à moi. Vous savez, les histoires, on les construit pas, c'est elles qui nous construisent, hein, je veux dire, ça arrive, quoi, ça survient, c'est exactement comme ces histoires de possession dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un gamin qui a une dizaine d'années à peu près, et qui est particulièrement doué et vif, quoi. C'est un gamin moderne, quoi. Et il se balade au jardin des Tuileries un dimanche matin, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose d'étrange, il rentre dans un fourré, il est poursuivi par d'autres gamins, et là dans le fourré il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête, il s'en saisit, c'est une sorte de petite clé multicolore. Et quand il sort de là, il la prend, il ne sait pas d'où elle vient, il la prend, et quand il sort de là, il fait une crise d'épilepsie. Alors là, tout le monde se précipite, une crise d'épilepsie, etc. On essaye de lui porter secours, et puis tout d'un coup, un autre bout du jardin des Tuileries, un autre gamin fait une autre crise d'épilepsie, et un autre, et encore un autre. Ce jour-là, ce dimanche-là, à Paris, il y a eu un millier de gamins qui ont fait tous, au même moment, une crise d'épilepsie. Les gens ne comprennent pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi ? Alors, toutes les interprétations arrivent. Et puis, au fur et à mesure du déroulement du récit, on commence à se rendre compte qu'en réalité, ces crises d'épilepsie sont la manifestation de la présence d'êtres qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un autre monde, et qui se sont emparés des corps des enfants, en fait, de certains enfants. Ça, c'est une part du récit. Mais ce récit est fait aussi en alternance. C'est-à-dire que j'ai essayé la chose la plus compliquée à mes yeux, c'est-à-dire de me mettre aussi dans la peau des êtres qui vont les posséder. Et ces êtres qui vont les posséder, j'ai essayé d'être assez conforme à ce qu'on pense dans des mondes où on pense l'altérité. C'est-à-dire ces êtres-là, c'est-à-dire l'être qui va posséder Samy, en fait, il s'appelle Samy aussi, quoi.
C'est-à-dire inversé,
il s'appelle Yams. Mais on apprend à la fin que c'est comme s'ils étaient destinés l'un à l'autre, quoi. Et il vient d'une planète, d'une autre galaxie, probablement. Il a fait des milliards de milliards d'années-lumière de kilomètres pour arriver jusque-là. Et en fait, il a trouvé là quelqu'un qui lui correspond, quoi. Et jusqu'à son nom même, il lui correspond. Et je me suis mis aussi à la place de ces êtres en essayant de rendre compte de la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce que cherchent les autres quand ils viennent parmi les humains. Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils attendent des humains? Ça, cette question sur l'altérité est cruciale. Si on veut comprendre ce que c'est qu'un étranger, il faut comprendre quelle est son intention, quoi. Mais ça, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est extrêmement important et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire aussi.
Parce que c'est l'autre, fondamentalement autre. C'est-à-dire qu'on est loin du concept d'étranger qu'on peut éprouver politiquement, socialement. On est dans une métaphysique de l'autre absolument autre, c'est-à-dire une sorte presque d'inconnaissable, une sorte d'invisible qui ne peut être connu que par le passage, par un processus.
Oui, alors c'est ce que pensent les mondes où il existe le concept d'étranger, véritablement.
Qui est différent de notre concept d'étranger que nous employons habituellement.
On n'a plus d'étrangers aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on a que des semblables, et c'est probablement la raison pour laquelle on a un doute sur notre propre identité, puisqu'on n'a pas d'étrangers qui viennent nous dire qui on est, quoi. Parce que, je veux dire, on a beau dire on est une humanité de semblables, mais pour être une humanité de semblables, il faut qu'il y ait le regard de quelqu'un d'autre qui vienne dire « Ah ben, ils sont tous pareils, ceux-là. Hein. » Mais qui est-ce qui vient dire « Ils sont tous pareils ?» Il n'y a personne qui nous regarde, puisqu'il n'y a pas d'étranger radical dans notre univers. On a des altérités, hein, je veux dire, on a des altérités complexes qui sont données par de la pensée scientifique et qui devient de plus en plus sophistiquée, en fait. On a des virus, par exemple, on a des bactéries, on a toute une série d'altérités comme ça qui vivent en nous aussi. Hein. Je veux dire, vous savez qu'on a plus de bactéries à l'intérieur de nous que de cellules propres, en fait. Hein. Donc on est complètement habité par des êtres étrangers, sauf qu'on ne se pose jamais la question de leur intention. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ça, cette question-là, on ne se la pose jamais pour la bactérie, on ne se la pose jamais pour le virus. On pense que ce sont des êtres automatiques, quoi, qu'ils sont là parce qu'ils nous prennent pour un milieu. Et je pense que c'est une mauvaise façon de poser la question, alors que des univers qui ont encore le concept d'étranger partent leur première question, c'est quelle est l'intention de ces étrangers? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, quoi? Et ensuite, la seconde question, c'est est-ce qu'on a bénéfice à un commerce avec eux, quoi?
Et d'où la question de l'hospitalité.
Évidemment.
Et là, c'est là où vous en venez dans votre fiction sur ce concept d'hospitalité. Vous avez cette phrase, l'hospitalité naît de la peur, de la frustration, et elle est toujours un pari. Peur de rater une rencontre qui pourrait se révéler unique, mais aussi peur de ses conséquences. Un pari aussi que le message de l'étranger, même s'il ne s'agit pas d'un esprit, d'un diable ou d'un dieu, comme dans le cas d'Abraham, me transfigurera. La leçon principale de ces rites, de ces techniques qui prennent acte du danger de capture, ou plutôt d'entre-capture, selon l'expression de Deleuze, est qu'il faut accepter de se laisser prendre si l'on veut bénéficier de la créativité de l'inconnu.
Oui, alors, c'est clair.
C'est très clair, effectivement. Alors, vous posez la question de l'hospitalité, vous y répondez d'une manière qui correspond à votre usage, l'usage que vous voulez faire sentir de l'autre.
Alors, je corrige d'abord un malentendu sur un texte très connu, un texte biblique très connu, qui a été commenté essentiellement par des religieux, mais aussi par des talmudistes, hein. Je dis pas seulement des juifs, hein, il a été commenté par les chrétiens, par les musulmans, c'est un texte qui est permanent, c'est au sujet d'Abraham. Abraham voit arriver trois étrangers qui passent devant sa tente, mais au loin, c'est-à-dire ils passent pas juste à côté, ils lui demandent pas l'hospitalité, ces étrangers qui passent, ils passent au loin, il voit passer ces étrangers, il se précipite vers eux. Il leur dit « Oh, étranger, s'il vous plaît, rentrez dans ma tente. » Alors ils disent ouais, bon, pourquoi pas, quoi. Mais c'est à la sollicitation d'Abraham qu'ils entrent dans sa tente. On se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette hospitalité où l'hôte supplie l'étranger de venir dans sa maison? Et à ce moment-là, quand il les reçoit dans sa tente, il se précipite vers eux, il leur lave les pieds et il leur offre à manger. Et alors on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors la réponse, elle est évidente. C'est pas parce qu'il est il aime son prochain. C'est comme ça qu'on interprète habituellement. C'est pas du tout parce qu'il aime son prochain. C'est parce qu'il est curieux. C'est parce qu'il sait que ces étrangers viennent peut-être d'un autre monde et qui vont lui apporter un message qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas un commerce avec eux. Et en fait, bien lui en a pris, puisque en vérité, il avait 100 ans à ce moment-là, Abraham, et sa femme 90 ans, et les étrangers en question lui disent « L'année prochaine, ta femme sera enceinte, tu auras un enfant. » Il n'y avait pas d'enfant. Et il dit bah, « Ça va pas, non, à mon âge. » Et en effet, sa femme tombe enceinte, et l'année suivante, elle a un enfant. Évidemment, ces étrangers, c'était Dieu lui-même. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit accueillir l'étranger? Parce que peut-être il se cache là, dans cet étranger, un secret, un être dont je ne sais rien, et cet être va m'apprendre une vérité sur moi. En fait, c'est par intérêt et par curiosité que je vais vers l'étranger. Et ça, c'est la leçon d'Abraham. Est une leçon, je pense, qui est fondamentale pour comprendre pourquoi tous ces mondes-là ont cette espèce de passion pour l'étranger. Vous savez, ça m'est arrivé en tout petit, hein, cette expérience. J'ai été l'étranger de quelqu'un. Je me souviens, c'était à Bamako, et j'ai croisé deux femmes. Je me perds, même à Paris, je me perds, hein, je suis parisien, mais je me perds à Paris. Donc j'ai pas du tout le centre de l'orientation. Alors quand je suis en voyage, alors c'est encore pire. J'étais tout seul à Bamako et j'avais pris un point de repère, comme on fait, quoi. C'était la mosquée de Bamako. Et évidemment, j'étais perdu et je rencontre deux femmes qui rentraient du marché et je leur demande où se trouve la grande mosquée. Alors elles me disent bonjour. Je dis bonjour. Dis ça va? Je dis oui, ça va. Et ton père, ça va? Je dis oui, mon père, ça va. Et comme je suis poli, je dis, et toi, ton père, ça va? Il dit oui, mon père, ça va. Et ta mère, ça va? Oui, ma mère, ça va. Et ta mère, ça va? Et ça a duré au moins 10 minutes. Après quoi, ils m'ont dit, la grande mosquée est par là. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont posé toutes ces questions? En fait, elles voulaient vérifier que j'étais un être humain. Non, mais c'est pas qu'elles pensaient que j'étais un diable. Mais on sait jamais, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger? Bon, évidemment, je ressemble pas aux gens de là-bas, quoi. Mais bon. Ils ont déjà vu des blancs, hein, c'est pas ça la question, mais il y en a pas beaucoup, hein, mais ils en ont déjà vu. Mais en même temps, c'est pas ça, c'est que un étranger, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, il est peut-être pas comme nous, il a peut-être des choses qui sont pas comme nous, et c'est intéressant, c'est bon à savoir, c'est bon à connaître, quoi. Ça, cette chose-là, elle est cruciale. Je pense que chez les animaux, c'est la même chose, hein. Mais c'est une relation entre les espèces, quoi. C'est pas entre les animaux individuellement, mais entre les espèces. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions de mimétisme chez les animaux. C'est pour ça que je cite Deleuze. Hein. Vous savez, sur ces relations. Alors lui, il parlait de l'abeille et l'orchidée. Il n'y a pas d'abeille, il n'y a pas d'orchidée. Il n'y a pas d'orchidée, il n'y a pas d'abeille. C'est deux espèces qui sont articulées l'une à l'autre, comme ça, qui survivent l'une par l'autre. Et qui survivent de leurs différences, quoi. Parce que ça n'a rien à voir. Une abeille et une orchidée, ça n'a rien à voir. Et pourtant, s'il fallait regarder les choses d'une autre manière, on pourrait penser que c'est les deux parties d'une même chose, quoi. L'abeille et l'orchidée. Mais il parle, c'est à ce sujet qu'il parle d'entrecapture. Mais parfois, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, vous avez déjà vu des phasmes?
Oui, oui, oui.
C'est extraordinaire. C'est des brindilles animées. C'est-à-dire des brindilles qui se mettent à bouger. En fait, ce sont des insectes, mais qui se déguisent en brindilles. Mais les phasmes ont cette passion pour l'étrangeté du monde qui les entoure. Ils voient une brindille, ils se mettent à ressembler à la brindille. Mais ils voient une feuille, ils se mettent à ressembler à la feuille. Mais plus encore, c'est qu'ils se laissent tomber comme une feuille agitée par le vent. Ils miment la feuille qui est agitée par le vent. Alors on se dit bien que c'est pour éviter de se faire prendre. de se faire capturer. Mais c'est une interprétation un peu courte, parce qu'en fait, les oiseaux l'apprennent très vite que, et ils mangent les pattes, les phasmes, quoi. Donc, c'est pas une très bonne stratégie. Donc, c'est pour une autre raison. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de curiosité pour l'altérité chez le phasme, comme chez l'araignée et chez l'abeille, et que cette chose-là est quelque chose de fondamental qu'on a vraiment qu'on n'a pas exploré.
Vous terminez votre livre sur les lois de l'hospitalité.
Oui.
Nous continuons donc sur l'hospitalité. Vous écrivez « La dernière des lois de l'hospitalité qui, à l'analyse, englobe toutes les autres, c'est celle-ci. Accueillir les étrangers non par bonté, ni par humanité, ni en vertu d'une morale ou d'un commandement transcendant, mais comme on reçoit un signe, un message. » Et donc nous revenons à Abraham. C'est-à-dire que de votre livre, Toby Nathan, « L'étranger ou le pari de l'autre », sur le grand autre, vous en arrivez en conclusion à établir des lois de l'hospitalité.
Absolument. Et je veux dire que ce lien avec l'étranger implique d'abord qu'on reconnaisse son altérité, hein. C'est-à-dire, quand je reçois un Malien, par exemple, en consultation, parce que moi j'ai fait ça toute ma vie, hein, j'ai essentiellement fait de la clinique avec des patients étrangers. Alors, bon, je les ai vus arriver en fonction des déflagrations de la planète, hein, puisque j'ai reçu au début, c'était des Portugais, essentiellement quand j'ai commencé, après ça a été des Maghrébins, ensuite ça a été des Africains d'Afrique subsaharienne, ensuite ça a été des Vietnamiens, ensuite, enfin, on a eu tous les événements de la planète qui se répercutaient dans les étrangers, dans la manifestation des étrangers qu'on voyait arriver à nos consultations. Et si on regarde l'être humain qui est là, bien sûr qu'il est exactement pareil que moi, mais les êtres qu'il apporte avec lui sont complètement différents. Et je vais vous, juste pour témoigner de cette expérience, je vous raconterai un cas qui m'a complètement sidéré. C'était un Chinois qui parlait pas un mot de français, hein, et donc il fallait, j'avais des interprètes, etc. Mais qui en plus était totalement délirant au moment où je l'ai vu. Et qui s'était jeté sous le métro, on l'a amené en urgence. Et puis à un moment donné, il dit, il dit en chinois, donc à l'interprète, il dit, mais je suis soigné, moi. Ah bon, tu es soigné par qui? Il dit, par un moine, en fait. Je suis soigné. Et il m'a soigné en me tatouant. Et donc, il nous montre son dos, qui était comme un livre, quoi. Son dos était écrit depuis le cou jusqu'au bas du dos. Mais c'était un texte. Un texte sacré qui était tatoué sur son dos, comme ça. Et sur le ventre, il avait un tigre, tatoué aussi. Et il dit, mais c'est pas moi, c'est le tigre qui fait le fou. C'est pas moi, c'est le tigre. Et il est là, et il montrait. Et quand il respirait, le tigre, il ouvrait la bouche, comme ça. C'était extraordinaire, il était torse nu, comme ça. Et je veux dire, c'était une telle démonstration de l'étranger, lui, il est mon semblable, bien sûr, en tant qu'être humain, c'est exactement le même que moi, bien sûr. Mais l'être qui l'accompagne, ce tigre-là, qu'on lui a tatoué pour essayer de le faire sortir de lui, moi, je ne le connais pas, le tigre. Et ça m'intéresse de le connaître. Ça, c'est un message important. Et ça, c'est pour ça que je me suis fait un devoir de l'accueillir selon ses coutumes à lui et pas les miennes.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.